Et la parole de Dieu pour ce soir, dans le cadre de la poursuite de l'étude des béatitudes du Seigneur, qui s'inscrit plus globalement dans l'étude de l'éthique du royaume de Dieu. Eh bien, aujourd'hui, nous allons poursuivre l'étude des béatitudes à partir de la septième béatitude, qui est localisée au verset 9 de Matthieu chapitre 5, les versets 3 à 12. Je reprends ce que je viens de dire. Nous allons, par la grâce du Seigneur, poursuivre l'étude de la parole de Dieu, l'étude des béatitudes du Seigneur, qui constitue, comme je l'avais dit, l'introduction du sermon sur la montagne, qui lui est consacré à la présentation par Jésus, le roi du royaume de Dieu, eh bien, de l'éthique, ou bien des principes, ou bien de la philosophie du royaume de Dieu. Et j'y lis pour vous à partir de Hébreux, de Matthieu chapitre 5, plutôt. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Amen. Dans le jardin d'Éden, la paix régnait de manière absolue sur la terre. Dans le jardin d'Éden, la terre ne manquait pas de paix. Le jardin d'Éden est caractérisé par un climat de paix sur toute la ligne, frères et sœurs, mes bien-aimés. Mais comme nous le savons, vous et moi, selon ce que la parole de Dieu nous enseigne, la paix qui régnait sur la terre dans le jardin d'Éden a été interrompue lorsque les premiers hommes, la première famille, lorsque l'humanité donc s'est laissée tromper, séduire par le malin, Satan le diable, l'adversaire, l'accusateur des frères. En sorte qu'aujourd'hui, et depuis ce temps-là, il n'y a pas de paix sur la terre, au sens de la paix qui régnait dans le jardin d'Éden. Dans le monde économique, il n'y a pas de paix. seulement quand nous regardons l'instabilité économique que le monde vit aujourd'hui et avant cette instabilité économique. On sait, vous et moi, en 2008, il y avait une crise financière. Les gens parlent de la crise des années 1936 et on n'en finirait pas de les nommer. Dans le monde économique, il n'y a pas de paix. Aujourd'hui encore, j'ai entendu que la Banque centrale américaine a procédé à une énième hausse du taux directeur. Alors, ce qui veut dire que les taux d'intérêt vont continuer à monter et les marchés fluctuent. Il n'y a pas de paix de ce côté-là, contrairement à ce qu'on pourrait s'attendre. Il n'y a pas de paix non plus dans le domaine religieux. On sent aux nombreuses guerres de religion que l'humanité a connues et parfois à l'intérieur même des religions, des classes doctrinales, il y a des situations conflictuelles, il y a des guerres. On ne peut pas compter combien de guerres de religion que l'humanité a connues et ce n'est pas terminé. Nous savons qu'il y a beaucoup d'histoires horribles qui se passent aujourd'hui, pas besoin de les nommer, et au nom de la religion. Dans le domaine racial, il n'y a pas de paix non plus entre les races. Je ne vous apprends rien, je ne fais que mettre l'étude en contexte. Et entre les races, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits, Dieu merci, par la main providentielle de Dieu, par la grâce commune de Dieu. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits. Toute la situation qu'il y avait quand je grandissais, et quand plusieurs d'entre nous étaient jeunes hommes ou jeunes femmes, on connaissait en Afrique du Sud, il y a quelques lieux d'espoir, avec toute la lutte que le pasteur Martin Luther King Jr. a menée avec ses collègues de lutte, ses compagnons de lutte aux États-Unis. On sait qu'il y a certaines améliorations, mais vous et moi, nous savons très bien que ce n'est pas terminé, ce n'est pas réglé. Encore, la question des conflits raciaux à l'intérieur même d'une seule nation. On a vu ce qui s'est passé aux États-Unis avec l'arrivée de cet homme qui a succédé à Barack Obama à la tête de la présidence américaine. Et au niveau de la paix raciale, il n'y a pas moyen de parler de paix non plus de nos jours, frères et sœurs. La paix sociale non plus, la paix sociale est très rare. Regardez ce qui se passe dans notre pays d'origine, par exemple. Regardez ce qui se passe, on a enregistré avec les gilets jaunes en France. Regardez tout ce qui se passe, des grèves. On connaît les grèves qu'il y a, les protestations, toutes les questions écologiques, toutes les questions des droits de ceci, droits de cela. Donc le monde est en effervescence. On n'a qu'à ouvrir notre télévision, notre téléviseur plutôt, et pour s'en rendre compte que la paix n'est pas à portée de main, la paix est une denrée rare. Dans le monde aujourd'hui, frères et sœurs, dans certaines familles aussi, la paix familiale est une denrée rare également. Et la paix personnelle aussi, c'est une denrée rare. Il y a des gens qui ne sont pas en paix avec eux-mêmes. Ils ne sont pas en paix avec leur entourage. Ils ne sont pas en paix avec eux-mêmes. Donc, et tout ça, c'est pour vous dire que la paix est mise à mal, et cela depuis l'intrusion du péché dans le jardin d'Éden. Et pour ceux qui lisent un peu l'histoire, que ça fait longtemps qu'ils suivent l'évolution des choses, je crois que On peut dire sans crainte d'être contredit ou sans crainte d'être contredite et que aucune époque n'a jamais eu besoin de paix que notre époque. Avec tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, toutes les campagnes de dénigrement qu'il y a sur les réseaux sociaux, toutes les émeutes qu'on a un peu partout dans le monde. Je crois que notre société, le monde actuel, a besoin de paix, frères et sœurs, mes bien-aimés. Je me réfère à ce que nous lisons dans la parole de Dieu, à ce que je viens de dire tout à l'heure par rapport à l'intrusion du péché dans le jardin d'Éden. Je me réfère à cela et à d'autres révélations que Dieu nous donne dans sa parole pour dire que cette rareté de paix, cette rareté de la paix dans le monde aujourd'hui, eh bien, ça vient du fait que Satan, le diable, s'oppose à l'œuvre de Dieu. L'opposition de Satan, le diable, à l'œuvre de Dieu, jointe, combinée, associée, si vous voulez, à la désobéissance de l'homme, voilà ce qui explique cette rareté de paix, ce grand besoin de paix, comme une denrée rare, comme une ressource rare que nous enregistrons aujourd'hui, frères et sœurs. Le plus grand ennemi de la paix dans le monde, c'est Satan le diable et la désobéissance humaine, frères et sœurs. La désobéissance et l'opposition de Satan ont miné ensemble, les deux ensemble, ont miné l'intimité, la communion, la proximité, la relation entre l'homme et son créateur, frères et sœurs. Et tant que ce problème n'est pas réglé, eh bien, le monde peut être certain qu'il va devoir continuer à faire face à cette rareté de paix dans le monde, frères et sœurs. Le monde est rempli de conflits, de guerres, d'instabilités de toutes sortes, de toutes formes, de toute origine, parce que le monde est rempli de corruption, le monde est rempli d'iniquité, le monde est rempli de péchés, frères et sœurs. La paix ne règne pas dans le monde parce que l'ennemi de la paix, en l'occurrence Satan le diable, est le prince de ce monde parce qu'il règne, eh bien, sur le monde. La paix ne peut régner là où règne la méchanceté. La paix a commencé dans le jardin d'Éden, la paix que Dieu a donnée pour le bien-être de l'homme ne peut pas cohabiter avec la désobéissance humaine, avec la corruption humaine, avec l'inimitié contre la source de paix. Ça ne marche pas, frères et sœurs. Et cette paix ne peut pas cohabiter avec la méchanceté. Une société paisible, c'est une société où la paix règne et donc où la relation avec Dieu est une relation solide. Bien entendu, dans sa grâce commune, Dieu fait toujours en sorte de limiter les dégâts au minimum. Mais il y a un niveau de paix auquel le monde pourrait s'attendre, malgré toutes les démarches, toutes les organisations internationales qui ont été créées. Regardez comment les Nations Unies sont rendues aujourd'hui. Regardez dans quelle situation les Nations Unies sont rendues. Et les Nations Unies qui ont été créées à la suite de la Deuxième Guerre mondiale pour faire régner la paix, les Nations Unies n'ont même pas la paix en son sein. Et si nous écoutons les nouvelles, nous pouvons comprendre ce qui se passe à l'intérieur du, du Conseil de sécurité des Nations Unies, où siègent quelques grands hommes de ce monde qui sont en train de semer la guerre en ce moment dans le monde. Et lorsque vient le temps de prendre une décision sur un pays comme Haïti, par exemple, ça finit toujours en queue de poisson entre les grands de ce monde, les représentants de la Chine, des États-Unis ou de la Fédération de Russie. Et tout ça, c'est pour vous montrer la complexité des choses. Les hommes font leur possible et avec la grâce commune de Dieu, ils enregistrent quelques résultats. Mais on s'aperçoit que plus on avance dans l'histoire, mais plus ça ne va pas. Et à la paix, nous avons un pays qui est très troublé dans le monde actuellement, mais les Nations Unies sont encore dans ce pays-là. Et les Nations Unies ont passé pour environ 15 ans dans ce pays-là, et juste avant que ce pays soit plongé dans le chaos tel qu'il est actuellement. Tout ça, c'est pour attirer votre attention sur ce que Jésus dit quand il dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Donc, je répète, les hommes méchants, les cœurs méchants ne peuvent pas produire une société de paix. Okay? Ils auront beau étudier dans des questions de paix, ils auront beau avoir des formations en gestion de conflits, en gestion de ci, de ça, ils auront beau avoir des doctorats en ceci, en ceci, mais les efforts de paix seront toujours limités. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de résultat. Dieu permet qu'il y a quelques résultats dans différents temps de l'histoire, par-ci, par-là, à gauche et à droite, mais on comprend que ce n'est pas la norme. Et ce n'est pas la norme, frères et sœurs. Donc, les hommes pécheurs ne peuvent pas produire la paix. Ils ne peuvent pas créer la paix. Et c'est une loi biblique, en quelque sorte. Et il y a une chose qui peut procurer la paix, c'est la croix de Jésus, la croix de Christ. Ce que les hommes ne peuvent pas faire, mais la croix de Christ peut le faire. La croix de Jésus peut procurer la paix à ceux qui ont besoin de paix. Dieu merci, frères et sœurs. C'est pour ça aussi que Jésus est venu. Jésus est venu pour apporter la paix au monde. Pour apporter la paix au monde, frères et sœurs. Seule la croix de Jésus peut procurer la paix à ceux qui en ont besoin, parce que à la croix, on a ridiculisé le Fils de Dieu, on l'a maltraité, on lui a craché au visage, on l'a percé, on a percé ses mains, ses genoux, ses pieds. Il a été insulté et finalement, il est mort. Il a été lapidé, il est mort sur la croix. Les disciples de Jésus, lorsque cela était arrivé, ils ont eu peur. Et on a frappé le berger, mais le troupeau s'est enfui. Et les disciples se sont enfuis. Et il faisait mauvais temps. Le ciel a lancé des éclairs. La terre a tremblé avec une violence extraordinaire. Et nous savons, vous et moi, de selon la description que Matthieu nous donne dans l'évangile de Matthieu, nous savons ultimement que le voile du temple s'est déchiré en deux lorsque le Fils de Dieu a connu ces choses que je viens de mentionner à la croix. Donc, c'était un climat de violence inouï, extraordinaire, qui a marqué la mort du Fils de Dieu à la croix. Et votre serviteur vient de vous dire que seule la croix peut donner la paix à ceux qui en ont besoin. Il arrive que Dieu travaille comme cela, de cette violence au niveau de la nature, des catastrophes naturelles, les éclairs, les tonnerres, il y a le tremblement de terre, la maltraitance de son fils, l'humiliation de son fils à la croix. De cette violence, Dieu, a tiré l'occasion, le moyen de donner la paix, de procurer la paix à ceux qui ont besoin de la paix, frères et sœurs, à la croix, la justice de Dieu a confronté le mal. La justice de Dieu a affronté le mal sur son propre terrain. À la croix, Dieu a affronté Satan, le diable, et bien sur son propre terrain, le terrain de la violence et de la mort. Et alors, et de cet affrontement, de cette confrontation entre le Dieu et l'ennemi, l'adversaire, entre la justice et la méchanceté, et entre la pureté et l'impureté, et de cet affrontement, de cette confrontation, eh bien, nous voyons que la paix est possible. La paix est possible, pourquoi? Parce que Dieu est sorti victorieux de cette confrontation à la croix. C'est bien important de comprendre cela. La justice de Dieu a triomphé de la méchanceté humaine à la croix. La paix de Dieu a triomphé de la violence du péché, que ce soit la violence du péché dans la nature ou la violence du péché par rapport aux exactions que l'humanité a commises contre le Fils de Dieu à la croix, contre que les bourreaux et l'establishment religieux d'Israël et un peu avec l'establishment romain, ils ont orchestré contre le Fils de Dieu. Eh bien, on a vu que la justice de Dieu a triomphé, la sainteté de Dieu a triomphé, l'amour de Dieu a triomphé. Et par le fait même, la paix a triomphé sur la violence. Dieu le Père, l'oratoire, cela dit, est la source de paix. Dieu le Père, le Dieu éternel, tout-puissant et trois fois saint, est la source de paix. Il est la source de la paix. Il est la source de paix. Et dans la foulée, le Fils de Dieu, le roi du royaume de Dieu, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, eh bien, il est l'agent de paix de Dieu. Il est l'agent de paix du royaume de Dieu. L'agent de paix que le royaume de Dieu apporte sur la terre. Il est l'agent de paix. Il est la manifestation de la paix dont Dieu, le Père, est la source. Et le Saint-Esprit de Dieu, lui, eh bien, est l'instrument de cette paix, celui qui applique cette paix à vous et à moi, aux enfants du royaume, par la grâce de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu donne la paix à ceux en qui habite le royaume de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu donne la paix à ceux en qui habite le royaume de Dieu. Et, ou alors, le Saint-Esprit de Dieu donne la paix à ceux qui habitent dans le royaume de Dieu. Très important, le royaume vit en nous et nous vivons dans le royaume. N'oubliez jamais cela, jusqu'à ce que le Seigneur revienne vous chercher. Le fruit de la paix, hein, le fruit de la paix, peuple du Seigneur, eh bien, vient du Saint-Esprit de Dieu, selon Galates chapitre 5, le verset 22. Le Dieu de paix a envoyé son Fils, le Prince de paix, sur la terre pour procurer la paix à ceux qui en ont besoin. Le Fils de Dieu envoie l'Esprit de paix. Amen. Le Fils de Dieu, quant à lui, envoie l'Esprit de paix qui donne le fruit de la paix aux enfants du royaume. Bien important de comprendre cela. Donc, la paix dont les enfants du royaume jouissent et que Dieu leur demande de transporter, de semer dans leur entourage, c'est une paix qui vient du Dieu triunitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, dans une collaboration parfaite au sein de la Trinité bénie, au sein du collège, au sein du sacré collège de la Trinité, frères et sœurs. Gloire à Dieu. En sorte que l'oratoire, peuple du Seigneur, chers amis internautes, celui ou celle qui n'appartient pas au royaume de Dieu en Jésus-Christ ne peut ni avoir la paix, ni procurer la paix. Celui ou celle qui ne porte pas en lui le royaume de Dieu ou en qui le royaume de Dieu n'habite pas et qui par le fait même n'habite pas dans le royaume de Dieu ne peuvent ni avoir la paix et encore moins procurer la paix aux autres, procurer la paix à son entourage. On donne ce qu'on a. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. La logique semble simple, frères et sœurs, mes bien-aimés. Le Dieu que nous servons, frères et sœurs, l'initiateur du royaume, le Père Tout-Puissant, peut procurer la paix aux autres. Hein? Il peut procurer la paix aux autres par le peuple du royaume. Il est disposé à procurer la paix aux autres par le peuple du royaume, par les enfants du royaume, frères et sœurs. Gloire à Dieu. Mais pour que le Dieu puisse faire cela, il faut qu'il investisse la paix dans le peuple du royaume. On vient de le dire, on ne donne pas ce qu'on n'a pas. Donc, le peuple du royaume peut faire ce que seulement lui est appelé à faire, à savoir porter la paix au monde, procurer la paix au monde. Le monde qui entoure l'enfant du royaume, y compris ses propres circonstances, peut être marqué par l'agitation, par des conflits, par des violences, par des chicanes, par la faim, par la privation, par toutes sortes de problèmes. Mais dans son fort intérieur, dans son être intérieur, l'enfant du royaume, chaque enfant du royaume de Dieu, a la paix de Dieu en lui. Chaque enfant du royaume de Dieu a la paix de Dieu en elle, cette paix que Saint Paul dira plus tard, qui surpasse toute intelligence humaine et angélique, toute compréhension humaine et angélique, tout entendement humain et angélique, frères et sœurs, mes bien-aimés. Ceux qui vivent même dans les conditions d'existence les plus idéales, pensons peut-être aux riches, à ceux qui ont un bon revenu, à ceux qui gagnent 5 millions par année, il y en a, à ceux qui gagnent 45 millions par année. Ceux qui vivent dans des conditions les plus idéales, frères et sœurs, sans Dieu, ne peuvent jamais connaître la paix que les enfants du royaume de Dieu connaissent en Jésus-Christ. Dieu merci, frères et sœurs. Tandis que ceux qui vivent dans les conditions les plus idéales sans Dieu ne peuvent pas avoir cette paix dont nous parlons, il arrive, frères et sœurs, par la sagesse de Dieu, que ceux qui vivent dans les pires conditions d'existence, avec Dieu, cette fois, ils ne manquent jamais de paix. Ou maladie, oui. Séparation, oui. Décès, oui. Privation, oui. Il y a des gens qui n'ont rien à mettre sous la dent dans certains pays que nous connaissons. Ils sont en paix dans leur être intérieur. Ils sont en paix parce qu'ils ont fait la paix avec Dieu en Jésus-Christ. Ils sont en paix parce que ils sont des pauvres en esprit. Et étant des pauvres en esprit, ils sont branchés à Dieu. Ils sont connectés à Dieu. Ils sont amis de Dieu. Et en étant amis de Dieu, en étant enfants de Dieu, en étant peuple du royaume de Dieu, Dieu leur fait cette grâce d'être en paix malgré les circonstances adverses, malgré les circonstances difficiles qui les entourent, dont ils sont frappés, dont leurs proches sont peut-être frappés, frères et sœurs. Et ce n'est pas une fausse paix, ce n'est pas de l'hypocrisie. Oui, nous pleurons. Oui, il y a parfois des moments difficiles. Oui, parfois il y a des moments de découragement. Mais en réalité, par-delà ces choses, le peuple de Dieu est un peuple qui est en paix. L'enfant de Dieu est quelqu'un qui est en paix parce qu'il a fait la paix avec son Créateur en Jésus de Nazareth. Il est dans le royaume de paix. Il ne se peut qu'il ne soit pas en paix. Elle est dans le royaume de paix. Le Dieu de paix est son Père en Jésus-Christ. Jésus-Christ, le roi, le prince de paix, est son roi. Il ne peut se faire qu'elle ne soit pas en paix. Impossible, frères et sœurs, mes bien-aimés. Gloire à notre Dieu, car je connais les projets, dit Dieu, que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Le projet de paix que Dieu a fait dans l'Ancien Testament, ce projet de paix est arrivé quand il y a un homme qui est arrivé en Palestine, qui a commencé à prêcher la parole de Dieu, qui a dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Il parlait du royaume de paix. Il parlait de cette paix dont Dieu en a fait le projet, eh bien, depuis l'Ancien Testament. C'est de ça qu'il parle, oui, frères et sœurs. Les projets de paix que j'ai formés sur vous, et non de malheur, ces projets trouvent leur réalisation, leur concrétisation, en tout cas, leur début de réalisation dans la venue du royaume. Il y a plus de 2000 ans de cela, quand un enfant est né à Bethléem, dans une crèche, dans une mangeoire d'animaux, c'est là où le projet a commencé à entrer en application. C'est là où le projet allait commencer à se réaliser. Ainsi, à chaque fois que quelqu'un accepte ce petit enfant-là, devenu homme, Dieu, à chaque fois que quelqu'un l'accepte, eh bien, le projet de paix se réalise dans sa vie. En sorte que ce roi, qui est en train de dévoiler les principes de son royaume, appelle, il en est tellement convaincu qu'il appelle ces gens-là, ceux qui procurent la paix, et d'en profiter pour dire qu'ils sont heureux. Ce n'est pas rien, frères et sœurs. Le Fils de Dieu dira plus tard, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. » Je vous ai dit ces choses. Les choses, c'est quoi? Mais les choses du royaume. Il a dévoilé des secrets du royaume, des paroles du royaume, des vérités du royaume. Il dit, je vous les ai partagées, je vous en parle, afin que vous ayez la paix en moi. Ce n'est pas rien quand votre serviteur vous dit que les enfants de Dieu, dans les pires conditions d'existence, ils sont en paix, ou alors ils sont supposés être en paix, parce qu'ils ont fait la paix avec Dieu en Jésus-Christ. Ce n'est pas une blague. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jean 16, 33. Le Dieu de paix a en vue, souhaite, la paix pour le monde qu'il a formé. J'ai déjà expliqué que Dieu n'a pas de problème avec son monde. C'est son monde à lui. Ce n'est pas le monde du diable. Le diable est un usurpateur. Le diable fait comme si le monde était à lui, comme si le monde lui appartenait. Vous et moi, nous avons déjà réglé ces choses. Je vous ai dit que le monde n'appartient pas à Satan, le diable. Le monde est à Dieu. Et Dieu aime son monde. Dieu aime sa création. Dieu aime l'humanité. Dieu aime les hommes. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle s'entend, la paix éternelle. La vie éternelle s'entend la joie éternelle. La vie éternelle s'entend le bonheur éternel. Ce n'est pas une blague. Ce Dieu-là veut la paix du monde. Et alors, parce que ce Dieu veut la paix du monde, dans la septième béatitude, le Fils de Dieu, le Prince de paix, le roi du royaume, celui en qui le royaume est venu, le porteur du royaume, le prédicateur par excellence, l'annonciateur par excellence du royaume, eh bien, il appelle le peuple de Dieu, à travers la septième béatitude, à procurer la paix. C'est tout. Tu as la paix de Dieu en toi, l'oratoire, homme et femme de l'oratoire, pasteur de l'oratoire, ouvrier de l'oratoire, le Fils de Dieu vous invite à propager cette paix, à procurer cette paix aux autres, à la partager aux autres. C'est tout un défi, c'est tout un mandat, mais c'est possible de le faire. La paix dont Jésus parle dans la septième béatitude, frères et sœurs, n'est pas comme celle que le monde connaît et recherche. La paix, bientôt, si le président de la Fédération de la Russie s'assoit avec le président de l'Ukraine. Ils vont s'asseoir pour rechercher la paix, entre guillemets. Ce n'est pas de cette paix dont il est question ici. La paix que le Christ m'appelle, t'appelle, vous appelle à procurer à notre entourage, c'est une paix d'une autre dimension. Une paix d'une autre dimension, frères et sœurs. Cette paix n'a rien à voir avec la paix des Nations Unies, ou la paix, bien sûr, ce sont des débuts, c'en est des débuts, bien entendu. Bien entendu, ce sont des débuts de cette paix-là. Mais dans le sens absolu du terme, ce n'est pas, c'est plus que cela, autrement dit. Ce n'est pas la paix que les rois donnent. Ce n'est pas la paix que les princes de ce monde, les présidents, ils donnent, frères et sœurs. Ce n'est pas la paix que les premiers ministres donnent. Ce n'est pas la paix que les diplomates donnent. Ce n'est pas la paix que même les humanitaires donnent. Hein? Ce n'est pas la paix que ces gens donnent. Il est question de la paix personnelle, intérieure. Il est question de la paix intérieure. Cette paix qui ne dépend d'aucune circonstance extérieure à l'homme. C'est une paix qui ne dépend pas de combien d'argent est-ce que j'ai sur mon compte bancaire, de si je suis en santé ou non. C'est une paix que je porte avec moi sur le lit d'hôpital. C'est une paix que je porte avec moi dans les temps de disette. C'est une paix que certaines gens qui sont actuellement dans un pays que nous connaissons très bien peuvent procurer. Même si on assiste à des situations de violence extraordinaires, inouïes, qu'on n'a pas vécues encore, vous et moi, il y en a qui peuvent être dans la paix. Et nous savons, Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup parce que il y a beaucoup de gens qui servent le Seigneur fidèlement dans ce pays-là ou dans ces pays-là, parce qu'il y en a d'autres. Saint Paul dira plus tard, Dieu nous a appelés à vivre en paix. En Corinthiens 7, le verset 15. Et que tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation, de Corinthiens 5, le verset 18, frères et sœurs. Le ministère, cela dit, le ministère de la réconciliation, c'est le ministère qui procure la paix. Quand toi et moi, nous travaillons de telle sorte que les gens rencontrent Dieu, connaissent Dieu, acceptent Jésus comme étant leur sauveur, rentrent dans le royaume de Dieu, acceptent le royaume de Dieu dans leur cœur, eh bien, nous travaillons, nous propageons la paix autour de nous. Nous propageons la paix autour de nos frères et sœurs. Ceux et celles que Dieu a appelés à la paix, il les appelle à exercer le ministère de la paix. L'équation est toute simple. Dieu t'a appelé à la paix, Dieu m'a appelé à la paix. Il m'a donné la paix, il vous a donné la paix. Et le Christ de Dieu, combiné avec Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, eh bien, il nous demande de propager, de communiquer, d'annoncer, d'enseigner, de prêcher la parole de la réconciliation qui procure la paix. Car je vous l'ai dit, ultimement, c'est la réconciliation avec Dieu qui procure la paix. De la même manière que c'est l'inimitié avec Dieu, c'est la coupure de la relation avec Dieu qui a amené, eh bien, le trouble. Alors, le contraire doit être vrai. C'est la relation avec Dieu qui procure la paix. Quand nous encourageons, quand nous invitons les gens à découvrir notre Dieu, le Dieu de paix, à rencontrer ce Dieu-là, à l'accepter en Jésus-Christ dans leur vie, comme maître, comme moi, comme Seigneur, comme chef, comme conseiller de leur vie, à travers le Saint-Esprit de Dieu, le titre de conseiller, eh bien, nous cherchons à leur procurer la paix. Nous faisons donc, alors, comme Saint Paul dira, les fonctions d'ambassadeur pour Christ, frères et sœurs, comme si Dieu exhortait, encourageait et annonçait ses vertus, eh bien, à travers nous. Encore 2 Corinthiens 5, cette fois-ci verset 19 à 20, frères et sœurs. Dieu nous appelle à communiquer cette paix. Une autre manière dont nous pouvons communiquer cette paix, c'est en restant dans cette paix, en affichant cette paix. Hein? Il y a un d'entre nous à l'église qui m'a partagé son témoignage. Oh non, j'ai eu ce témoignage deux ou trois fois, d'un serviteur de Dieu et de deux servantes de Dieu. Comment, dans des situations difficiles, particulièrement dans des temps de séparation, au funérailles, et je ne dis pas de ne pas pleurer, je ne dis pas de ne pas s'attrister, ce n'est pas ce que je dis, n'oubliez pas cela. Mais il y a, dans des temps d'épreuve, dans des temps difficiles, même dans des temps où vous êtes persécuté, dans des temps où vous êtes attaqué dans votre personnalité, quand vous êtes l'objet de fausses accusations aussi, la manière dont vous allez vous comporter va contribuer aussi à procurer la paix. C'est une autre façon de le faire aussi, parce que vous savez, vous et moi, nous sommes appelés à proclamer Dieu en parole et en action. Il n'y a pas qu'en parole que vous et moi, nous pouvons proclamer la paix de Dieu. Si je devais partager des témoignages avec vous de ce côté-là, je n'en finirais pas ce soir. Dans ma vie, comment des gens qui me persécutaient, et dans les derniers temps, dans les dernières, il y a comment des gens qui me persécutaient m'ont appelé au téléphone chez moi. Je parlerai moi de moi, mais en même temps, je ne veux pas garder ces gens de témoignages pour moi, tandis que je parle de ce sujet-là. Des gens qui m'ont persécuté, des gens qui m'ont insulté, qui ont tenté de m'avilir dans les dernières années. Comment ces gens-là m'ont appelé? Ils disent, ils n'ont jamais vu un pasteur comme ça, ils n'ont jamais vu un homme de Dieu comme cela. Et j'espère un jour que des gens viendront vous partager leur témoignage, leur expérience dans ce sens-là un jour dans notre congrégation. Un jour, je vais les inviter à venir partager avec vous, peut-être s'ils le veulent bien. Mais on referme la parenthèse, mais ça existe. Des hommes et des femmes de Dieu qui sont capables de faire face à l'adversité, aux épreuves, aux attaques, d'une manière chrétienne, et qui, par le fait même, sèment la paix autour d'eux, autour d'elles, quand il s'agit de femmes de Dieu. Il y en a qui vont recevoir cette paix-là, il y en a qui ne vont pas la recevoir, il y en a qui vont continuer à régimber, à résister, mais ne vous inquiétez pas, la semence est faite. En temps et lieu, elle portera ses fruits. Elle germera, croyez-moi, elle germera. Parfois, c'est dans le présent, parfois, c'est 10 ans plus tard, parfois, c'est 3 ans plus tard, parfois, c'est 4 ans plus tard. Donc, ne vous découragez pas à le faire. Et en tout cas, je voulais juste attirer votre attention sur deux des manières dont cela peut se faire. Comment on procure la paix? Dans les épreuves, dans l'adversité, dans les moments difficiles, on garde la paix que Dieu nous donne. On garde cette paix en nous. On prie que Dieu garde cette paix intacte en nous. Les autres vont le voir, croyez-moi. Ils vont le voir. Parfois, il y en a qui vont faire semblant de ne pas le voir. Mais il y en a d'autres qui vont être sensibilisés sur le coup, tout de suite. D'autres, c'est après qu'ils vont réfléchir, ils vont dire, ah. Et puis, c'est en proclamant l'évangile dans notre entourage aussi qu'on le fait. Et le résultat, mais c'est tout simple. Ceux qui procurent la paix seront appelés fils de Dieu. Car ils seront appelés, dit Jésus de Nazareth, fils de Dieu. Nous sommes déjà appelés fils de Dieu. Nous sommes déjà appelés fils de Dieu. Le verbe seront appelés est au futur et au passif. Cela veut dire que ceux qui procurent la paix porteront pendant toute l'éternité le nom d'enfant de Dieu. Nous sommes déjà appelés fils de Dieu en tant qu'enfant du royaume. Nous sommes déjà fils de Dieu, filles de Dieu, enfants de Dieu donc. Mais quand le verbe dit « seront appelés », c'est pas comme si maintenant nous n'étions pas fils, nous ne sommes pas fils. Non, nous sommes fils et nous serons fils éternellement, et dans toute la perfection de la réalité de fils, ou dans toute la perfection de la signification du terme « fils de Dieu ». Je vous ai déjà dit que nous avons tout déjà en Jésus-Christ, dans une sorte de déjà, et nous espérons tout en Jésus-Christ dans une sorte de pas encore. N'oubliez jamais ce paradoxe. Quand on comprend ce paradoxe, on comprend beaucoup de choses de l'Évangile. On a tout déjà en Jésus-Christ, et on attend tout de lui, dans un pas encore, et on a tout déjà dans un déjà. C'est de ce qu'on comprend de l'Écriture, c'est cet équilibre qu'il faut maintenir, c'est cette réalité qu'il faut comprendre. On a la paix, on l'aura. On a le salut, on l'aura. On a la joie, on l'aura. On a le bonheur, on l'aura. On est fils de Dieu, on le sera. N'oubliez jamais cela. Nous sommes dans le royaume de Dieu et nous le serons. N'oubliez jamais cette réalité-là. Partagez-le avec des gens qui vous aiment et puis qui veulent entendre l'évangile de votre bouche. Et partagez ces éléments de doctrine, de théologie biblique avec votre entourage pour leur instruction. Et un jour, ils ne l'oublieront pas. Et même si vous n'en voyez pas les effets, continuez à en parler. Continuez à enseigner, continuez à exhorter, continuez à prêcher. Et puis vous, demandez à Dieu de vous faire la grâce, eh bien, d'être un agent de paix, d'être une agente de paix dans votre famille, dans vos relations avec votre entourage, au travail. Priez que Dieu fasse de vous un agent, une agente de paix, parce que c'est à cela que vous êtes appelé. C'est votre vocation. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu, ou elles seront appelées filles de Dieu, s'agissant des servantes du Seigneur, s'agissant des sœurs, frères et sœurs, mais bien-aimés. Bien important, ils seront appelés fils de Dieu parce que Dieu lui-même a déclaré que nous sommes ses enfants. Le Dieu que nous servons, l'initiateur du royaume, le roi du royaume, le chef du royaume, il a promis aux enfants du royaume, frères et sœurs, la bénédiction éternelle, la bénédiction glorieuse, la bénédiction absolue de la filiation éternelle. Nous sommes fils et nous serons fils pour le temps et pour l'éternité. Frères et sœurs, mes bien-aimés, dans le royaume éternel de notre Dieu, qu'il instaurera dans un premier temps, eh bien, à Jérusalem, à la Palestine, lorsque le roi du royaume s'assiera sur le trône de David, pendant 1000 ans, comme une sorte d'introduction au royaume éternel, et après quoi viendra, eh bien, les nouveaux cieux et la nouvelle terre, et la descente de la nouvelle Jérusalem d'auprès de Dieu sur terre, et là, le royaume sera éternel. Et à toutes les phases, nous y sommes, et nous y serons par la grâce de Dieu. Nous le sommes maintenant, nous régnerons avec lui dans le royaume millénaire, et après quoi nous entrerons dans l'éternité avec le roi dans son royaume éternel, frères et sœurs. Quelle espérance, quelle grâce, quelle bénédiction, quel encouragement à être joyeux dans le Seigneur, à faire œuvre de paix autour de nous, frères et sœurs, quand nous réfléchissons à notre espérance. Vous vous rappelez que je vous avais dit que quand j'ai débuté l'étude de cette thématique avec vous, je vous avais très bien dit que c'était en complémentarité par rapport à l'étude que je faisais depuis quoi 8 mois, ça fait, qu'on avait continué avec l'Apocalypse. C'est la raison pour laquelle chaque fois que j'arrive au moment où il faut le faire, je fais le lien entre ce que j'ai déjà dit avec ça là, parce que c'était mon but justement. C'était en complémentarité avec cette étude là. Vous montrer un petit peu les différentes facettes de cet enseignement sur le temps à venir de notre Dieu, frères et sœurs. Verset 10. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Non. Il est 57. Avez-vous des questions? Ou avez-vous des expériences à partager? Avez-vous quelques situations à partager? Vous avez où la paix a remporté la victoire sur la violence, sur le trouble dans votre entourage, par votre vie, par votre expérience, par votre fidélité au Seigneur? Avez-vous quelques témoignages à partager en ce sens? Je vais peut-être arrêter l'enregistrement. Je vous dis que le Seigneur vous bénisse et puis j'arrête l'enregistrement tout de suite. Attends là.